Et c'est Daniel Saada qui est notre invité à présent en direct de Jérusalem. Bonsoir Daniel Saada.
Je vous corrige Bernard, je suis à Ramat Gan, à côté de Tel Aviv.
À Ramat Gan, et je disais à l'instant que vous êtes un expert des relations entre Israël et la France, et je pense que je vais vous interpeller en vous faisant cette réflexion. Est-ce que vous savez, Daniel, que c'est seulement depuis très peu de temps, et peut-être même seulement depuis le 7 octobre, que les intervenants, quand je leur dis vous êtes de Jérusalem, parce que moi, sur Radio Shalom, pour moi, je dis Jérusalem, c'est pareil, j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, voilà, c'est... Ils me reprennent, ils me disent non, je suis de Tel Aviv, je suis de Ramadan, je suis Rishon LeZion. Et depuis le 7 octobre, on revendique la ville d'où on est, on dit pas, c'est tout Jérusalem. Je sais pas si vous avez remarqué, et je sais même pas si vous y voyez un sens à ce que je viens de vous dire.
Non, je crois que d'abord c'est important de préciser les choses. Bien sûr, Jérusalem, c'est Israël, c'est l'identification ultime d'Israël. Mais comme j'aime préciser les choses et le sens du détail, c'est pour ça que je
non,
me
mais
suis
c'est avec
permis de vous
plaisir, bien
reprendre de
sûr.
la même manière que d'ailleurs que je vais vous reprendre sur le terme d'expert. Je ne suis pas si convaincu d'être un expert. J'ai le privilège d'être un témoin et un acteur de la relation entre nos deux pays, puisque, comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion de servir, entre autres, à plusieurs reprises à l'ambassade d'Israël à Paris. C'est là que j'ai commencé ma carrière diplomatique, et j'ai eu le privilège, en 2020-2021, d'assumer, l'intérim du
Voilà,
poste
c'est ça,
d'ambassade.
ambassadeur par intérim, on disait, alors qu'en fait, pour moi, un ambassadeur, c'est un ambassadeur. Donc, vous voyez, c'est moi qui suis pas expert. C'est pour moi, je ne comprends pas, ambassadeur par intérim. Voilà, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, puisque effectivement, vous connaissez très bien cette situation, beaucoup de gens autour de nous disent, j'ai jamais vu ça. Et moi, j'ai un peu envie de dire parfois, mais c'est, je suis un peu comme tout le monde, je suis pas sûr que je pense la même chose le matin et le soir. Des fois, j'ai envie de dire, non, mais en fait, c'est comme avant, sauf que là, tout est disproportionné. Le massacre du 7 octobre est disproportionné. Ça a amené une réaction de Tsahal qui n'a jamais été aussi forte. Des fois, on parle de 800 sorties d'avion sur la bande de Gaza sur une seule journée. Et puis ça fait plus d'un mois maintenant, puisque c'était un 7. Donc là, maintenant, et ça fait un mois. Et je me dis, non, c'est pareil, sauf que ça juste, c'est que les proportions sont plus importantes. Vous, Daniel Saada, vous qui faites ça depuis très longtemps, vous dites, on n'a jamais vu ça, ou vous dites, bah, c'est un peu quelque chose auquel on aurait dû... si, Israël, c'est comme ça, c'est la réalité israélienne. Comment vous voyez les choses? Et des Juifs de France, les deux en même temps. Comment vous voyez ça?
Beaucoup d'éléments dans votre question. Bon, incontestablement, les massacres du 7 octobre sont sans précédent dans l'histoire d'Israël. Nous avons connu des centaines d'actes terroristes depuis la création de l'État. Nous avons connu les guerres que tout le monde connaît, mais nous n'avons jamais connu ce niveau d'atrocité. On a comparé ça à des pogroms. Je crois que nous avons dépassé un stade, nous sommes passés de la terreur à l'horreur. Je ne crois pas qu'il y ait un terme qui existe plus fort que celui-là pour décrire ce qui s'est passé cette matinée du 7 octobre, déjà un mois dans lequel nous sommes plongés dans tout le pays, toute la population en Israël est plongée dans la découverte de chaque jour, nous apprenons des détails encore plus saisissants, encore plus horribles que ceux que nous pensions connaître. Les images commencent à tomber. On a récupéré énormément d'informations dans les caméras que les terroristes avaient sur eux, pour ceux qui ont soit abandonné leur matériel avant de rentrer dans la bande de Gaza, ou ceux qui ont été tués pendant les combats qui ont été menés pendant cette journée. Donc nous sommes en train de récupérer énormément d'informations. L'ampleur de ce massacre explique pourquoi un mois après, pratiquement jour pour jour, un mois après, nous n'avons pas fini d'analyser tout ce qui s'est passé à tous les niveaux, aussi bien au niveau de ces atrocités qui ont été commises, au niveau des combats qui ont été menés, au niveau de ces actes de bravoure exceptionnels. Je crois qu'il faudra des années pour compter et raconter ces actes de bravoure individuels et collectifs qui ont été réalisés par des militaires, par des forces de l'ordre, mais aussi par des citoyens, armés ou non, qui ont décidé de porter secours comprenant qu'il se passait des choses extrêmement graves. Certains sont sortis avec une simple arme de poing, un pistolet avec 6 balles dans le barillet pour essayer de se battre face à des terroristes surarmés, animés d'une haine barbare. Et nous avons aujourd'hui, nous commençons à connaître l'ampleur de ces actes de bravoure qui ont sans aucun doute évité et à ces atrocités de se multiplier. Déjà, nous en connaissons l'ampleur, 1 400, 1 500 morts, 240 otages qui se trouvent dans la bande de Gaza, encore une cinquantaine de disparus. On me pose souvent la question, pourquoi un mois après y a-t-il encore des disparus? Eh bien, c'est dire l'ampleur de ce qui s'est passé. Il y a encore des corps que nous n'arrivons pas à identifier. Il y a encore des ossements, des quantités de corps, de débris humains, je n'ose même pas appeler ça comme ça, qui ne sont pas identifiables malgré les moyens modernes et technologiques dont nous disposons. C'est pour vous dire combien ces corps ont été suppliciés, combien ils ont été mutilés, combien ils ont été déshonorés et heurtés. Donc c'est pour vous dire que cette journée du 7 octobre incontestablement restera dans l'histoire d'Israël. Il n'y avait pas de précédent et nous devons tout faire. Et c'est ce que nous faisons pour qu'il n'y ait plus jamais cela, pour qu'il n'y puisse plus y avoir la répétition de tels actes. La réponse est d'abord et avant tout militaire et stratégique. C'est ce que nous faisons dans la bande de Gaza. Et puis elle sera également par la suite politique et administrative, parce qu'il faudra trouver une solution. Cela va prendre du temps, il faudra trouver une solution. On évoque le jour d'après, mais je crois qu'il faut parler au pluriel, il faut parler des jours d'après, pas du jour d'après. Le jour d'après sera relativement simple parce qu'il faudra trouver une solution pour l'administration de la bande de Gaza, mais il faudra pour les jours d'après envisager comment nous pourrons récupérer un semblant de confiance avec un partenaire palestinien avec lequel nous pourrons peut-être envisager l'avenir, mais je crois que cela va prendre beaucoup de temps. Incontestablement, le Hamas nous a porté un coup extrêmement douloureux. Le Hamas a commis un crime innommable et je crois qu'il a aussi commis un crime très très important contre la cause palestinienne.
Alors, vous dites que ce sera relativement simple, mais ça risque d'être déjà très compliqué si on ne sait plus de quoi on parle. Pendant des années, moi je faisais un peu comme tout le monde, je disais, c'est deux adversaires qui veulent la même chose. Voilà, ils veulent tous les deux Jérusalem en entier. Ils veulent tous les deux la même terre. Et il y a une composante religieuse très forte parce que on est au Proche-Orient. Les gens sont religieux au Proche-Orient. Et aujourd'hui, je me demande, et donc je vous pose la question, est-ce que cette façon de voir n'était pas un peu biaisée, parce qu'elle était confortable, et que finalement, non, on voit qu'on est face à un adversaire qui serait, donc il s'appelle le Hamas, mais il serait le même en Syrie, il peut avoir des fidèles à Bruxelles, il serait le même en Tchétchénie, et tout ce qui semblait avant des slogans, qui permettait d'éviter les choix douloureux de négociation. Ben finalement, c'est vrai, on est face à un conflit de civilisation, avec des gens qui pensent que la planète doit être dirigée par l'un ou par l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je reviens sur notre situation très précise ici en Israël et à nos frontières. Vous savez, le Hamas n'est pas nouveau pour nous. Le monde l'a découvert le 7 octobre, mais nous sommes confrontés au Hamas depuis maintenant plus de 30 ans. Nous nous battons contre le Hamas, en tout cas depuis qu'il a pris le pouvoir dans la bande de Gaza dans les presque 20 dernières années. Ce n'est pas une nouveauté pour nous. Ce qui a été une nouveauté, c'est sa capacité de nuisance. Nous savions qu'il avait acquis un arsenal extrêmement important. Nous savions depuis plus de 20 ans, et les habitants du sud d'Israël, ceux de la ville martyre de Sderot notamment, connaissaient ses capacités en matière de missiles, de lancement de missiles sur d'abord les premières localités les plus proches de Gaza, puis la portée de ces missiles et leur qualité technique s'est améliorée au fur et à mesure des années. Puisqu'aujourd'hui, le Hamas est capable de tirer des missiles sur l'ensemble du pays, y compris sur Haïfa, puisqu'il y a maintenant un peu plus de 10 jours, 2 missiles tirés depuis la bande de Gaza sont tombés sur la ville de Haïfa. Mais l'essentiel de ces missiles sont lancés maintenant en tout cas depuis la dernière décennie, sur le centre du pays, Tel Aviv, le nord de Tel Aviv, ce qui correspond à peu près 5 500 000 habitants en Israël. 5 500 000 Israéliens vivent depuis 10 ans, 1 million d'entre eux depuis 20 ans, si je parle uniquement de ceux du sud, vivent sous la menace des missiles du Hamas. Chacun de ces missiles, c'est une centaine de kilos d'explosifs. C'est-à-dire que chacun de ces missiles, normalement, devrait tuer au moins quelques dizaines de personnes si nous n'avions pas tous les moyens de défense que nous avons développés. Je pense évidemment aux dômes de fer, mais pas seulement, à l'ensemble des techniques et des moyens logistiques qui ont été mis en œuvre depuis 20 ans pour nous protéger, pour protéger notre population civile. Donc sur le papier, nous devrions avoir des dizaines de milliers de morts, mais nous ne les avons pas parce que, à la différence du Hamas, nous protégeons notre population, nous ne l'exposons pas. Évidemment, nous ne l'utilisons pas en bouclier humain, mais nous faisons bien plus puisque nous mettons tout en œuvre pour la protéger. Je peux vous dire, j'ai lu hier soir que depuis le début de la guerre, depuis un mois, il y a eu, je vous disais que j'habite à Ramat Gan. Donc ici à Ramat Gan, c'est une ville, il n'y a aucune installation militaire, aucune installation stratégique, aucune installation
Une caserne.
politique d'envergure. Ce ne sont que des civils. Et ma ville a reçu, depuis le début de la guerre, ma ville a reçu 38 missiles. Donc si nous n'avions pas le dôme de fer, faites le calcul du nombre de morts qu'il y aurait seulement ici à Ramat Gan. Donc je ne parle pas de ce qui se passe à Ashdod, à Ashkelon, à Tel Aviv, et évidemment dans les localités du sud autour de la bande de Gaza. Donc pour répondre à votre question, nous avons un problème ici à nos frontières. Aucun pays au monde ne pourrait, à ses frontières, accepter de vivre à la fois sous la menace des missiles, des attaques, des bombardements, mais aussi sous la menace des intrusions, des incursions de ces groupes terroristes pour commettre les atrocités que nous avons vues. J'entendais tout à l'heure, auparavant, le témoignage de ce journaliste de LCI qui comparait avec Andorre et Monaco. Il se trompe. Parce que pendant qu'il parlait, j'ai regardé, Monaco se trouve à 950 km de Paris et Andorre se trouve à 860 km de Paris. La bande de Gaza est à moins de 70 km de Jérusalem et à moins de 100 km de Paris, de Tel Aviv, pardon. Ce qui veut dire, la comparaison n'était pas bonne. C'est Rouen qu'il faudrait prendre en comparaison, ou Beauvais. C'est comme si le Hamas était un, c'est comme si Daesh ou l'État islamique s'était installé à Beauvais pour bombarder Paris ou pour faire des incursions dans la région parisienne. C'est ça la menace que nous avons. Donc nous savons, quoi qu'il se passe en Tchétchénie ou en Europe ou dans le reste du monde, quoi qu'il se passe sur le flanc de l'islamisation et du radicalisme islamique, nous savons qu'à nos frontières, nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir ces groupes terroristes. Nous devons les démanteler. C'est impossible d'envisager notre avenir en tant qu'État juif. En tant qu'État-nation du peuple juif, en tant qu'État indépendant, c'est impossible de l'envisager, mais c'est aussi impossible de l'envisager pour toute idée de réconciliation entre les Palestiniens et nous-mêmes, quelles que soient les décisions qui seront prises dans l'avenir. Il y a un axiome de base qu'il faudra remplir. Dans cette équation, nous savons qu'il y a une inconnue qui n'est plus une inconnue. Le Hamas doit disparaître.
Daniel Saada, ancien ambassadeur par intérim à Paris, et vous êtes aussi à présent en direct de Ramat Gan. Vous voyez, j'ai bien retenu. Je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Bonsoir, bonsoir Bernard.